Bonjour, et je pensais qu'avec ce jour pluvieux, enfin pluvieux, mais très orageux, on se serait retrouvé, mais alors en comité réduit, parce que dans notre pays, la pluie, on n'est tellement pas habitué, surtout après 6 mois de sécheresse, que tout le monde se cache. Puis finalement, grâce à cette porte bienveillante, on peut voir ceux qui sont assidus à l'heure et qui respectent. Je vous le dis, parce que moi j'étais pareil, je suis arrivé quelques minutes avant vous, j'étais aussi. On a été plusieurs comme ça à franchir la porte. Merci de ta bienveillance, Emmanuel, de nous avoir accueillis avec le sourire. Oui, pour donc ceux qui sont en visite aujourd'hui, nous avons l'habitude, depuis quelques semaines, les anciens ont demandé que nous étudions le livre des psaumes. Et donc, nous choisissons des psaumes régulièrement pour essayer d'en tirer la substantifique moelle. D'abord, en préambule, je voudrais dire que pendant les 4 jours qui ont précédé, j'étais dans un stage, un séminaire de théâtre dont j'étais l'animateur. Et c'était extrêmement frustrant de ne pouvoir échanger avec ces personnes avec qui on était donc 8 heures par jour. On était tous ensemble pour partager des analyses sur l'activité, mais à aucun moment je n'avais le droit, c'est une des lois quand on est dans un univers théâtral, un atelier ou une compagnie, on ne parle pas de politique, on ne parle pas de religion, on ne parle pas de toutes les choses qui peuvent fâcher, on dit que le lieu est sanctuarisé, mais sanctuarisé sous forme en fait de hyper-laïcité, et pour se concentrer que sur l'art théâtral et ne pas y mettre des affects personnels ou des émotions qui nous sont propres. Et donc tous les matins, on commençait notre travail par un échauffement. Voilà. Et je me disais, c'est quand même terrible, j'aimerais vraiment commencer par une prière. Et j'aurais aimé pouvoir la partager avec les gens qui étaient avec moi, ils étaient une quinzaine. Évidemment, c'était pas le lieu, je ne me sentais pas concerné, et je devais garder sous le boisseau, si je puis dire, toute cette foi que j'avais en moi, par respect pour eux, parce que j'étais pas là pour leur parler de ça, même si j'espère que par mon attitude et mon comportement, j'ai pu faire passer quelques valeurs, qu'on dirait chrétiennes, qui au moins n'étaient pas agressives pour eux. Mais je dis ça parce que ce matin, je suis extrêmement heureux d'être avec vous, parce que nous partageons la même foi et nous pouvons en toute liberté prier et dire notre bonheur et notre joie d'être réunis ensemble pour parler et louer notre Seigneur Jésus. Alors, cette introduction n'est pas si décalée par rapport à ce dont je vais vous parler. Donc je vais vous parler d'un psaume, je vous dirai exactement lequel, même si vous avez eu le numéro, mais j'ai demandé à Martine très gentiment de ne pas le mettre pour garder un peu, non pas la surprise, mais pour essayer de vous mettre dans le contexte de l'écriture de ce psaume. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, parce que il y en a évidemment plusieurs, beaucoup, plus une centaine, beaucoup plus, même je ne sais plus combien, 119, 140, mais c'est toujours intéressant de savoir quel est le contexte dans lequel ces psaumes ont été écrits. Alors parfois on le sait, parfois souvent même on ne le sait pas trop, mais là celui dont je vais vous parler, on sait exactement quand est-ce que ça a été écrit, et forcément ça va influer sur le contenu de ce psaume, puisque si tout ce qui aura été vécu avant par le psalmiste qui va le pousser à écrire ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors le contexte, il est assez particulier, donc c'est David qui va écrire ce psaume-là, et nous sommes, donc je remonte un peu, nous sommes pendant le règne de Saül, jusqu'ici ça s'était très 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 bien passé, et on apprend dans 1 Samuel 15 qu'à un moment Saül, donc Dieu exige de lui qu'il fasse la guerre contre les Amalécites qui à l'époque de l'arrivée en terre promise, c'était très mal comporté envers le peuple hébreu, et Dieu demande de se venger de ce peuple-là. Et alors ça, c'est les terrible phrase de l'Ancien Testament de rentrer dans le pays, d'exterminer tout le monde, sans faire le moindre quartier. Et Saül mène la guerre contre ces gens-là, la gagne évidemment, mais au lieu d'obéir aux ordres de Dieu, laisse la vie sauve à certaines personnes, à du bétail, etc., pour d'un côté s'enrichir, enfin enrichir son peuple, ce qui n'était pas une mauvaise idée, et puis peut-être aussi garder quelques liens diplomatiques avec ce monde païen en exécutant pas tout le monde. Et évidemment, ça ne plaît pas à Dieu, et l'histoire du psaume dont je vais vous parler, en fait, commence ici, même si c'est beaucoup plus antérieur, donc au chapitre 15. Donc je vais vous lire des tout petits versets à chaque fois pour bien vous certifier que ce que je vous dis est écrit. Donc au verset 10, il est écrit l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi, il n'observe point mes paroles. » Donc, la sentence de l'Éternel tombe, et un peu plus tard, au verset 23, Dieu dit « Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, je te rejette aussi comme roi. » Donc, première étape, Saül est toujours roi d'Israël, mais dans le cœur de Dieu, il n'est plus le roi officiel, en quelque sorte. Il reste le roi des hommes, mais ce n'est plus celui que Dieu a choisi. Au chapitre suivant, vous connaissez cette histoire, c'est un jeune homme, très jeune homme, David, qui est choisi au milieu d'une famille qui n'a rien de particulier, et c'est donc lui qui est oint roi d'Israël par Samuel. Donc au chapitre 16, au verset 12 et 13, il est dit « L'Esprit de l'Éternel saisit David. » L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oint-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Voilà, donc, David est choisi, officieusement, en quelque sorte. Ce n'est pas encore un sacre officiel devant tout le peuple. Et suite à ça, donc ce jeune homme qui vivait dans une famille tout à fait normale, qui n'avait rien de spécial, et donc choisi par Dieu, il est oint, et ensuite il va même rentrer au service du roi, en tant que joueur de guitare, joueur de pipeau, et surtout pour calmer les angoisses de Saül, puisque la manière dont il jouait de la musique permettait à Saül de se sentir un peu moins angoissé, parce qu'évidemment depuis que on lui a appris que Dieu lui avait retiré en sorte sa bénédiction, il se sent très très mal, et on peut le comprendre. Et donc il est dit, Saül fit dire à Isaïe, donc le père de David, « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Donc vous voyez petit à petit comment David monte les marches du pouvoir en quelque sorte. L'épisode suivant, alors vous le connaissez encore plus, c'est lorsque Saül va vaincre Goliath. Toute l'armée a peur de ce géant philistin. Et c'est ce jeune homme qui vient avec une fronde pour vaincre le terrible guerrier et donc permettre la victoire du peuple d'Israël sur les Philistins. Et ce combat va lui rapporter une grande gloire. Puisque à la suite de ça, évidemment, il est nommé un peu lieutenant en chef des armées, et il est dit « David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Sous-entendu, David est 10 fois plus fort que le roi. Donc, encore une étape vers la gloire, la reconnaissance et le star system à son apogée. Alors, ça n'arrête pas de monter pour David, c'est une réussite fulgurante. Un peu comme Mbappé du football, je dis ça pour mon ami, pour être sûr qu'il suive encore un peu. Voilà, il est très très jeune, ça marche très très bien, tellement bien que Saül se dit maintenant il est à un tel degré de gloire que si je veux pas qu'il me fasse d'ombre, il faut qu'en fait il devienne mon vassal officiel, et donc il va lui proposer sa femme en mariage. Sa fille en mariage. Alors, ce qui est terrible, c'est qu'on pourrait dire finalement c'est un plan, c'est assez sympathique, mais en fait vous savez tous que c'est un piège. Puisque comme c'est un David n'a pas de fortune, il n'a pas de, de titre à offrir, donc la seule moyen de pouvoir avoir le privilège de devenir le gendre du roi, c'est d'offrir une dot que Saül va fixer. Mais évidemment, le roi va fixer une dot qui pour lui est un piège dans lequel David devrait mourir. Et c'est le fait il lui demande de ramener 100 prépuces de Philistins. Ça, c'est des modes à l'époque. Il y en a qui offrent des bagues, d'autres des prépuces. Ça. N'épiloguons pas. Mais ça veut quand même dire qu'il faut tuer les gens et qu'ils soient bien morts pour aller se servir sur la bête. Donc, c'est quand même extrêmement risqué. Et David, non seulement en ramène 100, mais il en ramène 200. Et donc, le pauvre Saül, entre guillemets, se trouve pris à son propre piège. Lui qui pensait que cette épreuve allait condamner David, au contraire, lui donne encore plus de gloire et il est forcé de lui donner sa fille comme épouse. Donc là, David, il est vraiment au top. Et en plus, il sait qu'il est loin de l'Éternel, donc quand Saül ne sera plus là, forcément, ça sera lui qui prendra le pouvoir. Et c'est là que les choses commencent à se gâter. Là encore, vous le connaissez, mais je reprécise pour bien savoir dans quel contexte nous sommes. Saül devient fou furieux et va, coup sur coup, mettre en place 3 tentatives de meurtre. Une fois directement dans le salon de Saül avec la lance, il a essayé de l'empaler. Et hop, heureusement, David, qui est un très bon guerrier, évite le coup. Donc déjà, il est forcé de s'éloigner. Puis, il va rentrer chez lui, à côté de sa femme. Sa femme est prévenue que son père va encore tenter un mauvais coup, et avant que les sbires viennent pour le tuer dans la chambre nuptiale, elle le fait fuir par la fenêtre, et les soldats n'emportent finalement qu'un mannequin qui est censé représenter le corps de David pour lui laisser le temps de s'éloigner. Saül se rend compte de la supercherie, David du coup est allé encore plus loin, et là il va envoyer des soldats pour le tuer dans l'endroit où il se trouve, mais les soldats sont remplis d'esprit de Dieu et vont du coup vont prophétiser au lieu de tuer David. Saül lui-même, du coup, puisqu'ils ne sont pas capables de faire le boulot, moi je vais faire le boulot. Saül vient, mais là encore, Dieu met sa main sur Saül pour que, au moment de le tuer, lui aussi se mette à prophétiser et donc soit incapable de mener à bien sa tâche funèbre. Mais tout ça fait que, même si à chaque fois notre David s'en sort, là il a bien compris qu'il faut vraiment qu'il parte loin, parce que Saül ne le laissera pas tranquille jusqu'à ce qu'il le soit tué. Et donc, il s'en va, comme un malheureux, seul. Il reçoit l'aide de Jonathan, le fils de Saül, et Jonathan, lui jure fidélité, et le prévient que son père est devenu totalement fou, il ne pense qu'à le tuer, donc il faut vraiment qu'il aille très très loin. Et il lui promet évidemment fidélité, assistance, mais ça n'empêche pas que David se retrouve complètement isolé. Après avoir monté si haut, avoir tout connu, il redescend très très bas, encore plus malheureux que s'il était resté le simple fils de son père, berger avec les moutons. Et la fuite, qui jusque-là était son pain quotidien, finalement devient quasiment un exil. Donc il perd tout, même son propre pays, et il a tellement rien qu'il a même rien à manger, il n'a rien pour se défendre, il est quasiment nu devant toutes les armées de Saül qui le recherchent. Et là, il va être obligé d'aller utiliser le mensonge pour essayer de s'en sortir. Alors, il va aller voir le sacrificateur Achimélec, et il va lui mentir pour avoir simplement une arme et de la nourriture. Donc il va dire que les soldats sont là avec lui, qu'il faut qu'il les nourrisse parce que c'est Saül qui l'envoie pour une mission spéciale. Du coup, il reçoit quelques nourritures, et il reçoit même l'épée qui avait servi à trancher la tête de Goliath, et hop, il s'en va, après ce mensonge, avec ce qu'il avait réussi à obtenir pour survivre. Et il fuit, et là, il va se réfugier chez le roi Achish, qui est pas le roi de la Lorraine, parce que Achish-Lorraine, on l'a déjà fait, on le fera plus, mais qui est le roi de Gath. Et là, le problème, c'est qu'il pensait être protégé, en quelque sorte, mais il sent tout de suite qu'il est en danger, d'autant que lorsqu'il arrive devant ce roi, on le reconnaît et les gens disent de lui, mais n'est-ce pas lui que dont les Hébreux disaient en chantant « Saül a frappé ses mille et David ses 10 000 ?» Donc c'est lui le grand soldat, mais on te reconnaît là, dis donc, tu vas passer un très mauvais quart d'heure, parce qu'il y a quelque temps, tu nous as tous zigouillés. Et à ce moment-là, David, après le mensonge, va avoir l'humiliation de se rendre ridicule. Donc la seule chance qu'il a de s'en sortir, alors, c'est de devenir aux yeux de ce roi-là quelqu'un d'autre que David, ou bien un David tellement inoffensif que il n'y a même pas la peine de s'en occuper. Et que fait-il ? C'est marqué. David prit à cœur ses paroles, donc les gens qui se moquent de lui, et il eut une grande crainte d'Achish, roi de Gath. Il se montra comme fou à leurs yeux, et il fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes, et il laissait couler sa salive sur la barbe. Donc en fait, il joue le démon, il joue le fada, il joue l'homme qui est complètement pris par le délire et les démons, et du coup, Achish tombe dans le piège, dit à ses serviteurs, « Vous voyez bien que cet homme a perdu la raison, pourquoi me l'amenez-vous ? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ses extravagances ? Faut-il qu'il entre dans ma maison ?» Et donc, il est renvoyé comme un fou, comme un type sans aucune importance, qui au contraire souille le palais du roi, et il est mis dehors, donc il est à nouveau sauvé, mais au prix, cette fois-ci non pas d'un mensonge, mais d'une humiliation, où il doit avoir faim d'être quelqu'un de totalement fou et de tout à fait repoussant. Vous l'imaginez, il saute partout, il pousse des cris, il fait pousser de la salive. Moi qui suis comédien, je peux vous dire que ça, il faut de l'énergie pour faire ça. C'est bien, c'est toujours très très impressionnant et si c'est bien fait, ça peut faire peur, mais ça donne de la personne qui le fait, si on n'est pas dans un cadre de comédie où on sait que c'est un comédien qui le fait, ça donne une image absolument déplorable de la personne. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive à mon fameux psaume 34. Et d'autant plus que lorsqu'il fuit, donc il fuit de ce fameux roi après avoir fait le fou, il est dit « David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adoulam ». Donc à ce moment-là, je ne sais pas si vous imaginez son état d'esprit. C'est-à-dire, il était rien, il a été choisi par Dieu, il est devenu le héros de tout un peuple, un grand guerrier, un homme aimé, courtisé au sens le plus noble du terme par toute la population qui l'admire et qui le bénit. Il est choyé par le prophète qui lui sait qui il est vraiment. Le roi l'a choisi, et malgré que ça soit un piège, finalement, comme il a réussi à se détourner de tous les pièges, il devient le gendre du roi. Donc c'est quand même c'est extraordinaire comme carrière. Et on a vu, il a tout perdu très très vite, jusqu'à n'être plus rien qu'un homme quasiment nu dans une caverne pour se protéger. Et il écrit ce fameux psaume 34. Alors évidemment, avec tout ce que je vous ai donné comme indication, vous savez qu'il y a des psaumes de heureux, puis des psaumes de malheur, et évidemment, le psaume 34 est un psaume qui va aller tout à fait dans le sens de ce qu'on vient de dire, vu l'état d'esprit de David. À sa place, on aurait sans doute écrit ce qu'il va écrire. Donc je lis le début du 34, psaume de David, et c'est indiqué comme ça, « Lorsqu'il contrefit l'insensé, c'est-à-dire il joua le rôle du fou, en présence d'Abimélec, et qu'il s'en alla chassé par lui. » D'accord ? Donc on est là, vous imaginez, dans la caverne. Et qu'écrit-il à ce moment-là ? Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Voilà, c'est pour ça que je voulais qu'on passe du temps sur le contexte, parce que il y avait de quoi être amer, dépité, terrorisé, au bout du rouleau. Il l'est humainement, mais lui, la première chose qu'il dit, seul dans sa caverne, c'est « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, que mon âme se glorifie en l'Éternel. » Et c'est des louanges qu'il adresse d'abord à Dieu. Il a sauvé sa peau plusieurs fois avec des interventions divines qui sont vraiment très très limitées. Dieu n'a pas envoyé une myriade d'anges, n'a pas envoyé soudain une armée, n'a pas fait ouvrir la mer en deux. Il a vraiment de quoi se sentir totalement isolé et abandonné. À part Jonathan et son épouse à un moment, qu'il a fait fuir par la fenêtre, il était seul. Seul. Et malgré cela, il bénit Dieu. Il bénit Dieu. Il trouve dans toutes les épreuves qu'il a subies et le fait qu'ils soient encore vivants, la preuve de l'existence de Dieu. Et le premier sentiment qu'il a en lui, c'est non pas « mon Dieu, mais c'est pas possible de me faire tomber tout ça sur la tête, mais qu'est-ce que j'ai fait ? En plus j'étais si haut, je vais tomber si bas, qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi moi ? Pourquoi j'ai mérité ça ?» Non, seul dans ma grotte, je bénis Dieu, je lui adresse des louanges, mon âme se glorifie dans mon Dieu. Mais il n'est pas dupe de son état, parce que dès le verset suivant, à la fin du verset 3, il dit que les malheureux écoutent et se réjouissent. Il est malheureux. Donc quand il dit que les malheureux écoutent, il sait de quoi il parle. C'est pas un roi sur son trône qui dit « bon, je pense aux malheureux, aux pauvres ». Très souvent, ça arrive quand il y a des grandes catastrophes dans le monde, etc. Il y a souvent des personnes célèbres qui sont dans le sens qui prennent la parole pour essayer de synthétiser un peu l'état d'esprit de tout le monde, et je suis tout cœur avec eux, et je comprends leur malheur, je vais les aider. Oui, sauf que eux, le soir, ils rentrent dans leur lit, tout va bien, comme nous d'ailleurs, la plupart du temps. Mais lui, quand il parle des malheureux, il parle de lui. Il sait comment il est, dans quel état il est. Et donc, les malheureux à qui il s'adresse peuvent être sûrs qu'ils sont exactement compris pour ce qu'ils ressentent, parce que lui est dans cet état-là. Et tout de suite après, donc il dit que les malheureux écoutent et se réjouissent, exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Donc je suis malheureux comme vous, mais comme j'ai commencé mon psaume, je le continue, nous les malheureux, on a de quoi exalter le nom de l'Éternel. Et juste après, il est encore extrêmement lucide sur ce que Dieu a fait pour lui. Il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Mais quand on voit ce que je vous ai raconté, on se dit, il est quand même super sympa de remercier Dieu, parce que quand même, il n'a pas été très très loin dans l'aide. Et bien sans doute que pour lui, à ce moment-là, j'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu comment ? Par Jonathan, qui vient de sauver dans le champ et lui donner le bon avertissement. L'Éternel lui a répondu par son épouse, qui a réussi à le faire fuir. Et peut-être Dieu lui a répondu en lui disant, ou en lui donnant, en lui permettant d'avoir l'intelligence de mentir juste pour se nourrir et avoir une épée pour se défendre. Ou Dieu lui a répondu en lui disant, fais le fada, soit dans le jeu, soit dans l'hypocrisie, soit dans l'apparence, simplement pour sauver ta peau. Et ces mini-interventions que lui a su transformer en quelque chose de positif, qui lui ont permis d'être délivré de toutes ses frayeurs. Et vous voyez la part du boulot qu'il a dû faire lui-même, et d'accepter de voir dans des choses minimes, c'est-à-dire Jonathan qui vient en se cachant au bout d'un champ avec un petit gamin qui a une flèche pour donner le signal, et sa femme dit « vite, va-t'en », enfin des petits détails, donc il est là en train de mentir pour avoir son bout de pain ou de faire des dire c'est mais c'est lui qui l'a fait ça, et c'est lui qui l'a fait parce qu'il sentait que Dieu était présent avec lui et lui disait je suis là, je t'envoie juste des petits cailloux pour te rassurer, mais toi en tant qu'être humain dans ta liberté avec ton intelligence avec ce que tu es, tu dois avancer. Tu dois travailler à ton sauvetage. Et moi, ça me fait vraiment poser la question de tout ce courage, ces prises de décision successives, même ces moments de folie, c'est-à-dire d'aller mentir, d'aller se jeter dans la gueule du loup, du roi, etc. Est-ce que il ne faut pas qu'on se dise que notre liberté, on se dit toujours pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas, Dieu n'intervient pas, mais Dieu intervient peut-être sur des petites rencontres comme ça, au milieu de notre malheur, au milieu de notre mal-être. Mais si ça nous suffit pas et qu'on dit non, moi j'attends le grand truc, sinon je suis fichu, je ne fais rien, est-ce que c'est pas aussi une preuve de manque de confiance en Dieu, qui si ne nous envoie que ça, peut considérer qu'on a les moyens en nous de faire le reste du boulot et de s'en sortir? Est-ce que s'il nous envoyait tout pour nous libérer de notre malheur, quel qu'il soit, est-ce que ça ne serait pas finalement sur le long terme à notre détriment, à notre construction d'être humain et à la force de notre relation que nous avons avec lui? Est-ce que David, s'il avait eu des anges tout de suite qui étaient venus le délivrer immédiatement pour prendre le trône, est-ce qu'il aurait eu envie de dire « Je bénis l'Éternel, je chante sa gloire » Est-ce que sa prière n'a pas plus de force et de sincérité après tout ce qu'il a vécu et dont il est au fond de lui-même persuadé que finalement c'est Dieu qui lui a donné les moyens qui pour nous et pour lui sur le moment lui paraissaient minimes mais qui en fait étaient énormes puisqu'il a pu s'en sortir. Et la louange continue puisqu'au verset 6 il dit « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte ». Au théâtre, il y a une loi qui dit quand on va sur scène et qu'on se sent ridicule, on est ridicule. Quand on se sent honteux, on est honteux. Si on joue un personnage, on se dit « c'est pas moi, puis les gens vont se moquer de moi, les gens, en spectateur, vont se moquer de moi ». Mais là, quand il a sans doute dû jouer le rôle du fou, le rôle du type baveux et qui hurle partout, il était pas honteux de ce qu'il faisait parce qu'il est dit avec lui, le visage ne se couvre pas de honte. C'est-à-dire, si tu sais que Dieu t'a donné d'avancer dans cette voie-là, et qu'à un moment, tu dois utiliser des moyens qui peuvent paraître, a priori, hors vertueux, ou bizarre, ou hors de ce que tu es toi-même, si au fond de toi, tu sais que c'est Dieu qui t'accompagne, et qu'il te permet, quand on tourne vers lui les regards, et bien à ce moment-là, cette honte, qui est la honte des hommes, n'est pas la honte de Dieu. Et ça peut aussi nous faire réfléchir sur nos propres attitudes. Peut-être que parfois on se freine, à certains moments de nos existences, pour prendre une décision, ou avoir un mode de fonctionnement, ou avoir une réaction qui nous paraîtrait, dans le cadre d'une église normale, avec des gens vertueux, et qui n'ont pas de soucis, ou qui, a priori, ne le montre pas, je dirais non, c'est pas comme ça qu'on fait. Eh ben peut-être si, à certains moments, c'est comme ça qu'on doit faire. Moi, à ce moment-là, précis, sous le regard de Dieu, c'est comme ça que je dois faire. Et je n'en ai pas honte, parce que tout est possible avec Dieu, si l'on sait qu'on le fait avec lui, accompagné par lui, sous son regard. Et la clé de tout ça, dire quand on sait qu'on est sous son regard, c'est un peu léger. Juste après, il est dit, voilà, au verset 7, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. On pourrait mettre entre parenthèses avec les moyens que lui a choisis. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Et juste après, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Là, on est dans l'expérience personnelle. C'est-à-dire ce sentiment d'être dans la bonne ligne, même si ce qu'on va faire à un moment précis semble hors-jeu, c'est parce que, au fond de nous, on sent et on voit combien l'Éternel est bon. Et vous voyez que sentir et voir, c'est deux des cinq sens qui ne concerne que nous. C'est-à-dire que on va tous voir, peut-être on va aller dehors et voir le paysage. Il y en a certains qui vont voir des nuages, d'autres qui vont voir, au contraire, un arbre qui sort, un coin de soleil. Ce que l'on va voir, c'est vraiment notre expérience propre. Pareil, ce que l'on va sentir, notre odorat, même s'il y a évidemment des choses communes, chacun l'a développé d'une façon spécifique. Donc quand il dit « sentez et voyez combien l'Éternel est bon », il fait appel à notre expérience personnelle. Ce n'est pas quelque chose de collectif. Et chacun de nous, puisque nous sommes avec Dieu maintenant, nous le sentons et nous le voyons à notre façon. Et c'est, quels que soient les moments de notre existence, on est tous capables de dire, je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, mais je sentais au fond de moi, ou je voyais qu'il fallait que je fasse comme ça, ou que je ne fasse pas ça. Et ça ne peut fonctionner que si on est en relation personnelle avec notre Dieu. C'est marqué dans aucune loi. C'est là que la loi est complètement caduque. Parce que la loi, elle dit des cas généraux. On a un cadre, on est dans le cadre ou hors du cadre. Quelle que soit la personne, tu es dans le cadre ou hors du cadre. Avec Dieu, une fois qu'on a donné son cœur à lui, on est dans une relation personnelle. Et ce qu'on sent et ce qu'on voit de notre relation, elle est peut-être différente de celle qui va être à côté. La personne d'à côté. Évidemment, le grand cadre général de notre relation avec Dieu, on le connaît. Mais à l'intérieur de ça, notre vie quotidienne, c'est de créer toujours ce lien personnel entre lui et nous qui permet de le sentir, de le voir à notre façon. Et dans notre vie quotidienne, il n'y a que nous qui pouvons sentir et voir comment agir à tel moment. Et peut-être qu'aux yeux de la personne d'à côté, mais ce n'est pas comme ça qu'on agit. Non, parce que toi, tu sens et tu vois Dieu à ta façon. Moi, c'est à ma façon parce que ma relation avec lui est différente de ta relation avec lui. Même si le cadre général, c'est l'amour, c'est la crainte, c'est le respect, tout ça, vous le connaissez. Et je pense que c'est extrêmement riche de voir ça parce que tout de suite, ça illumine les rapports fraternels dans l'Église ou ailleurs sous une autre lumière. Si on accepte de se dire que on a un Dieu, on est tous frères et sœurs, mais le rapport qu'on a avec ce Dieu est différent, et ben du coup peut-être qu'on va accepter que les rapports entre nous soient un peu différents. Puisqu'on parle de frères et sœurs, pour ceux qui ont eu la chance, que je considère c'est une chance d'avoir des frères et sœurs, ou bien qui ont des enfants plusieurs, vous voyez bien que la façon, mais je préfère parler de, enfin, si ça marche dans les deux sens, de, on a beau être les enfants du même couple, vous voyez bien qu'on ne s'adresse pas à eux de la même façon. Et nous, en tant que parents, on n'a pas la même relation, même si on les aime tous de la même façon, avec chacun de nos enfants. Parce que la relation qu'on a mise en place, elle est unique. Et pourquoi elle est unique? Parce qu'elle s'est affinée au fil des jours, au fil des mois, au fil des années de notre fréquentation commune. Si je prends une classe de 25 élèves que je ne connais pas, la première semaine, avec les 25 enfants, je vais être exactement pareil en tant qu'adulte, en tant que professeur. Je ne les connais pas, ce sont des enfants, donc ils doivent réagir à des lois d'enfants. On ne bouge pas, on dit bonjour, on ne se lève pas pendant la classe, etc. Mais peut-être qu'au bout de 15 jours, je vais les connaître mieux. Ou au bout d'un mois, je saurai que lui, malheureusement, il a un problème, il doit faire pipi toutes les heures, parce qu'il a un problème. Et ben, quand il va se lever pour le faire pipi, j'aurai même pas besoin de lui dire non ou oui, un regard, va faire pipi. Ou l'autre, je sais que quand il lève la tête comme ça pendant un truc, c'est qu'il est perdu. Donc je vais pas lui dire, bosse et travaille. Je vais aller vers lui, je vais l'aider à résoudre le problème, parce que je sais qu'il fonctionne comme ça. C'est ça qui crée la relation unique entre les gens. C'est la connaissance, et c'est ce qu'on vit au quotidien dans notre humanité. Mais c'est ce qu'on doit vivre au quotidien avec notre Dieu. Si c'est qu'un Dieu formel à qui on obéit selon les lois qu'il nous a données, c'est pas une relation. Et on peut pas le sentir, on peut pas le voir à notre façon. Donc on peut pas savoir comment il agit dans notre existence, comment il veut qu'on agisse, puisqu'on va être un peu aveugle, on va avoir le nez bouché, non pas sur la vision et la vue et l'odeur des hommes, mais sur la vision qu'on a et l'odeur qu'il dégage avec nous. Et c'est tellement vrai que dans 1 Pierre, l'apôtre Pierre, il va reprendre cette idée-là. 1 Pierre, verset 2, chapitre 3. Donc, rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Un troisième sens, goûter. Une autre manière, le goûter, c'est pareil, le goût, hein, je ne vais pas apprécier la framboise ou la morue comme vous ou comme toi, c'est, le goût va être particulier. C'est énorme de se rendre compte de ça. Et ce psaume, finalement, il ne dit que ça. Toute l'histoire de David, pour en arriver à ce psaume, pour qu'il arrive à cette histoire incroyable, qu'il dise Alléluia après tout ce qu'il a vécu, c'est parce qu'il voit, parce qu'il sent, parce qu'il goûte son Dieu à sa façon, et il sait que tout ce qu'il a traversé, vu par une autre personne, c'est une horreur, mais vu avec les sens qu'il a développés dans sa relation avec Dieu, c'est jouable, c'est acceptable, c'est même magnifique. Et quand on reprend cette histoire de Pierre, il y a quelque chose qui est encore beaucoup plus étonnant, c'est que si on lit bien le verset que je vous ai lu rapidement, « Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » On pourrait s'attendre à ce qui est marqué « parce que vous avez goûté que le Seigneur est bon ». Mais il y a le « si ». C'est-à-dire que la causalité, elle est inversée. C'est « si vous avez goûté que le Seigneur est bon », si vous avez fait l'expérience de cette relation avec Dieu, avec votre vue, votre odorat, votre goût, vos mains, la relation là, si vous avez goûté ça, alors rejetez la méchanceté, rejetez la médisance. Encore une fois, la loi ne s'impose à nous que parce que d'abord on a eu la grâce de goûter Dieu, lui et moi. Et à ce moment-là, évidemment qu'on va avoir envie de rejeter la médisance, etc. Mais si on inverse le propos, rejetez ça, faites pas ci, faites pas ça, et vous goûterez Dieu, et vous le connaîtrez mieux, ça ne peut pas marcher, ça n'a jamais marché. Et c'est ce que fait Jésus. En venant sur terre, il nous a permis de le goûter, de le connaître, de le voir, et chacun en aurait une expérience personnelle à dire à ce sujet-là, et l'expérience ne serait pas la même, même si à l'arrivée, elle arrive au même résultat. Et du coup, après cette histoire de goût, d'identité forte, de lien unique entre lui et moi, voici ce qui nous arrive. Donc, sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire de la prolonger pour jouir du bonheur, c'est-à-dire nous tous. Et tout ça, on peut se les approprier parce qu'on a goûté la relation, etc., etc., je ne vais pas recommencer. Et du coup, une fois que ceci est mis en place, il va pouvoir nous donner, et c'est la fin du psaume, des conseils très très précis, qui sont de l'ordre de la loi, mais qui, à cause de ce goût que l'on a pris de cette relation personnelle, ne devient plus une loi, mais devient une liberté, simplement de vouloir lui plaire. Juste après, il est mis « Préserve ta langue du mal et t'élève des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. » Il y a des mots importants. Il y a le mot « mal », il y a le mot « bien », il y a le mot « paix », il y a le mot « juste ». Je fais une parenthèse. « Préserve, t'élève des paroles trompeuses. » David, il les a pas préservées pour avoir son pain. Il a éloigne-toi du mal. Le mal, il l'a singé quand il a fait le fou. Parce que dans sa relation personnelle, il avait goûté, senti, vu que c'était ce qu'il fallait qu'il fasse à ce moment-là et il n'en avait aucune honte. Parce qu'on n'était pas dans ce mal-là, dans ce bien-là. C'est important d'entendre les mots le mal, le bien, la paix, la justice. Parce que aujourd'hui, ces mots-là, ils n'existent plus. Il n'y a plus de mal, il n'y a plus de bien. C'est un peu mal, c'est un peu bien, comme disait le chanteur, c'est entre gris clair et gris foncé. C'est ce qui est juste, oui, peut-être. Mais enfin, tout ça est maintenant devenu un espèce de mélange un peu où chacun le traite à son propre goût, à sa propre vue, à son propre odorat. sauf que c'est le sien qui n'est relié à rien, ou qui est relié à des philosophies ou à des idées qui ne tiennent pas. Alors que nous, notre ce bien, ce mal, cette paix, cette justice, on sait que c'est passé par le goût, par la vue de notre relation avec lui. Donc, ça a du sens. Et à ce moment-là, comme on a compris tout ça, David se lâche, toujours au fond de sa grotte, avec tous les autres qui sont derrière en train de l'espionner, de le chercher. Il va élargir son propos, et je terminerai sur ça, il va élargir à non plus notre petite vie à nous, puisque là on était dans la relation personnelle, bien, cette relation personnelle, en fait, elle est vécue par chacun. Ce chacun, ça fait la multitude des hommes, des croyants et des non-croyants. Et parce qu'il y a une justice, qu'il y a un bien et un mal, il va y avoir aussi une fin à tout ça. Et c'est les derniers versets qui, du coup, prennent tout de suite une ampleur beaucoup plus générale. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. On va revenir à Pierre un instant. C'est intéressant de voir que dans la première épître de Pierre, Pierre va reprendre exactement ce qu'on vient de lire au verset 10. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Donc, ce qu'a dit David des siècles précédemment, Pierre le reprend intégralement, et c'est pas innocent que ce soit Pierre qui le dise. S'il y a un apôtre qui a une relation très particulière avec son Dieu, où il y avait vraiment que lui qui pouvait avoir cette manière de le voir, de le goûter ou de l'entendre, c'est Pierre. Et Pierre reprend exactement toutes les paroles du psaume de David pour en faire quelque chose de beaucoup plus universel. Et je reprends la toute fin de mon psaume. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. La notion de toujours va nous mener vers l'éternité. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Et c'est ici, à ce moment-là, qu'il y a la célèbre prophétie de notre Seigneur, dont aucun os n'est brisé sur la croix. Et qui sera repris, je ne vais pas vous lire, dans Jean 19, où il est repris exactement comme dit la prophétie, aucun de ses os n'a été brisé. Donc, à partir de son expérience personnelle, de sa relation unique avec Dieu, dans ce psaume, David, finalement, en fait une loi générale, mais une loi d'amour, une loi de liberté, qui va amener à Jésus, dont aucun des os n'est brisé. Et ça se termine comme ça, le malheur tue le méchant. Donc il y a à un moment une justice, la justice dont on parlait, là elle va tomber à la fin. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Donc s'il délivre l'âme, c'est qu'il les ouvre vers l'éternité. Et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Donc à partir de toute son expérience de vie incroyable, à partir de sa propre envie de louer le Seigneur, il va nous y inclure d'abord nous les malheureux, puis nous les croyants, puis les non-croyants, vers la récompense finale. Donc ce verset 34, ce psaume 34, en fait, est une espèce de résumé de ce que nous dit Dieu, de ce qu'il nous demande d'être avec lui et de ce qu'il nous promet si on le goûte vraiment de façon intense ou de ce qu'il nous promet aussi si on refuse de participer au festin qu'il a préparé pour nous, mais chacun à titre individuel. Ce psaume, c'est le psaume de la vraie vie. C'est-à-dire ce que vit David, c'est la vraie vie. Moi-même, c'est un truc de roi, etc. On pourrait tous se dire, à un moment, j'étais super bien, puis il y a tout qui s'est écroulé, catastrophe, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi tu m'as abandonné? C'est la vraie vie, ça. Et à la vraie vie, David a répondu par la vraie foi. Pas celle des dogmes, pas celle des traditions, pas celle de la raison humaine plaquée sur une situation, mais celle de sa relation totalement sincère, riche, profonde, inaltérable, que rien ne peut couper avec son Dieu. Et c'est ça qui va l'amener à se sortir de sa situation et à continuer sa vie, dont il nous exposera quelques passages symboliques dans d'autres psaumes, mais ça sera la tâche de mes autres frères prédicateurs pour une autre fois. Je vous remercie.